Interview.
1 Interview.
Et c'est l'heure de l'interview avec Laureline Fontaine. Bonjour.
Bonjour Yves.
Laureline Fontaine, de nouveau parmi nous pour nous parler de votre dernière parution intitulée « La Constitution au XXIe siècle », sous-titrée « Histoire d'un fétiche social ». Et ça, c'est toujours aux éditions Amsterdam, hein, tout comme le précédent ouvrage donc, dont on parlera un peu aussi sur ce qu'il a provoqué ou produit en tout cas. Et pour cela, donc, la Constitution au XXIe siècle, peut-être que je peux vous présenter, Laureline, vous êtes professeure en droit constitutionnel à la Sorbonne.
Nouvelle,
merci. Et donc, la Constitution au XXIe siècle, Fontaine, pour vous, quelle a été cette nécessité de le rédiger ?
Alors, comme je l'explique tout à la fin de l'ouvrage, dans mes remerciements, ce livre est vraiment la conséquence du précédent. Comme vous l'avez dit, j'ai publié en mars 2023 un ouvrage sur le Conseil constitutionnel qui s'intitulait « La Constitution maltraitée » et qui est paru en plein conflit des retraites. Et ce faisant, je ne sais pas si tous les auditeurs s'en souviennent, mais la pression a été mise en fin de parcours législatif sur le Conseil constitutionnel qui pouvait dire que la loi qui avait été adoptée était contraire à la Constitution et donc pouvait la censurer. Donc beaucoup de pression sur le Conseil constitutionnel qui finalement ne l'a pas censurée. Mais du coup, ça a donné une grosse actualité à mon ouvrage alors et j'ai fait énormément de rencontres. J'ai été beaucoup à l'époque dans les médias, mais j'ai aussi été invitée par différentes associations, soit des associations de réflexion, soit des associations militantes, notamment sur le plan politique. J'ai été invitée à des festivals du type Cité Philo à Lille. J'ai été invitée à faire spécifiquement des conférences sur l'ouvrage. J'ai rencontré des étudiants, évidemment. Et à chaque fois, j'ai été amenée, évidemment, à parler de ce que représentait pour nous tous la Constitution. Parce que finalement, on l'invoque souvent, mais on la connaît très mal. Mais surtout, on s'en fait certaines idées. Et puis, à mesure des discussions, j'ai quand même été, comme je dis, sur les routes pendant un an et demi avec cet ouvrage. Eh bien, est née l'idée que ça serait quand même très intéressant de faire un livre qui soit aussi l'aboutissement pour moi de 15 à 20 années de recherche sur la Constitution et qui me faisait dire un peu autre chose que ce qui se dit habituellement. Et donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on parle beaucoup de Constitution. On en parle un peu tout le temps dans les médias parce que il y a, on va dire, des petits trafics qui se font un peu autour de la Constitution depuis quelques temps. Et finalement, voilà, ça m'a paru plutôt important de revenir sur des représentations communes qui, en fait, nous condamnent à l'impuissance par rapport à tout ce qui se passe maintenant depuis quelques temps.
Je reviens sur ce sous-titre, « Histoire d'un fétiche social ». Donc, il y a en quelque sorte une part d'irrationalité dans cet aspect.
Irrationalité n'est peut-être pas le terme que je choisirais, mais le recours à l'idée de fétiche veut en effet appuyer que on croit au pouvoir de la Constitution. Et j'ajouterais, sans même l'avoir jamais vu. Alors, je ne parle pas de la Constitution, je parle du pouvoir. C'est-à-dire que finalement, si on y réfléchit un petit peu, depuis que les constitutions s'écrivent dans le monde, c'est-à-dire exactement depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, alors c'est réservé à quelques pays au départ, les États-Unis, la France, la Pologne pour quelques petites années, puis la Suisse et d'autres suivront, faisant qu'aujourd'hui, sur les à peu près 200 pays que compte le monde, plus de 195 ont une constitution écrite. Et donc, depuis que les constitutions s'écrivent, eh bien, je dirais qu'on n'a jamais vu une constitution, entre guillemets, faire le bien dont elle parle. Parce que quand même, si on aime les constitutions, c'est pour ça. C'est parce qu'elles prônent l'égalité de tous, c'est parce qu'elles garantissent la liberté de chacun, liberté individuelle, liberté collective, parce qu'elles affirment parfois des principes qui sont plus spécifiques à une culture donnée. Aujourd'hui, la constitution colombienne, par exemple, consacre la Pachamama, la terre-mère, comme un bien à sauvegarder. Et ça rend la constitution, ça rend le récit constitutionnel aimable. Mais malgré tout cela, les textes n'ont jamais réussi à donner vie à ces principes-là. Peut-on sérieusement dire aujourd'hui que nous sommes dans des sociétés parfaitement égalitaires ? Évidemment que non. Et je pense, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est celui de l'Afrique du Sud. Lorsque l'Afrique du Sud a réalisé sa transition après l'apartheid, elle a été très accompagnée par la société internationale dans le processus de rédaction d'une constitution qui soit une constitution évidemment beaucoup plus libérale, égalitaire, etc. Et c'est une belle constitution avec des belles affirmations, des beaux processus aussi, des beaux mécanismes, des belles techniques, on pourra peut-être en reparler. Et pour autant, cette constitution, la société sud-africaine aujourd'hui, en 2024, est considérée comme l'une des sociétés les plus inégales du monde. Encore aujourd'hui que l'apartheid n'a pas du tout fini de produire ses effets, en dépit du fait que la Constitution, l'Afrique du Sud, a un texte absolument parfait. Donc c'est pour ça que je parle de fétiche, parce que ça fait 250 ans que ça dure, et on y croit toujours. On y croit toujours, comme si c'était possible. Et on se dit, bon, si ça n'est pas le cas maintenant, alors on va réviser, on va adopter une nouvelle constitution. Et finalement, à chaque fois, c'est toujours un peu la même chose. Alors bien sûr, on peut dire que la société d'aujourd'hui n'est pas la même que celle il y a 250 ans. On peut se dire éventuellement, si on analyse les choses ainsi, que la société est meilleure aujourd'hui. Bon, j'en suis pas si certaine, mais disons. Mais est-ce que c'est le fait des constitutions ou que c'est le fait d'autre chose ? Parce que c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. Parce que, à l'inverse, quand on voit des pays autoritaires, inégalitaires, ont des constitutions qui sont à peu près identiques à celles que nous connaissons sur le territoire occidental, on peut vraiment se poser la question des vertus réelles du texte constitutionnel. Et c'est tout cela que j'ai voulu interroger dans le livre, et je vais d'ailleurs beaucoup plus loin que ce que je raconte maintenant.
Lors d'un entretien hors micro, je comparaissais aussi l'idée du totem. Donc le totem peut prêter à l'interprétation. Peut-être que certaines personnes ont cette capacité à dialoguer avec ce totem, peut-être pour être l'intermédiaire entre cette représentation et le peuple. Est-ce qu'il y a aussi cet aspect-là ? Parce que là, par exemple, ces dernières lois, il y a eu cette réforme des retraites. Beaucoup se sont réclamés, l'ont réclamé ou l'ont désigné plutôt anticonstitutionnel, donc passage au Conseil constitutionnel, puis quand même validation malgré tout. Donc est-ce que on peut dire aussi que le Conseil constitutionnel s'appuie sur la naïveté des gens ?
Alors là encore, tout à l'heure tu parlais d'irrationalité, maintenant de naïveté. Ce sont des termes que je n'emploie pas parce qu'ils me semblent extrêmement délicats, parce que ça supposerait d'être vraiment au fait de ce qui se passe dans la tête des gens. Et je ne le suis pas. Néanmoins, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a en effet un décalage entre les représentations de la Constitution qui sont produites dans l'espace public, notamment dans les médias, mais pas seulement, parce que tu me présentais tout à l'heure, enfin vous me présentiez tout à l'heure comme professeur de droit constitutionnel, et des cours de droit constitutionnel et institutions politiques, il y en a depuis longtemps et dans beaucoup d'établissements. Il y a même maintenant un cours, une option droit qui est proposée aux élèves de terminale du bac général. Et dans cette option droit, on leur présente les institutions. Donc, il y a beaucoup d'enseignements à l'université, dans différentes écoles, qui présentent les institutions politiques, qui présentent la Constitution. On en parle dans les médias. Et des experts en parlent. Et tout ça, ça produit une certaine idée d'eux. Et une certaine idée d'eux que les gens nécessairement se réapproprient. Parce qu'en effet, il en est peu, et c'est bien normal, pour avoir étudié de près non seulement les textes, mais pas seulement, parce que ce n'est pas un livre sur le texte, c'est un livre sur la valeur du texte et sur les usages de ce texte. Mais donc peu aussi pour avoir étudié d'autres textes, d'ailleurs, dans l'histoire et à l'étranger, ce que je fais dans le livre. Il en est peu pour avoir étudié de près les discours à propos des constitutions, et c'est aussi également ce que je fais. Et donc, nécessairement, j'allais dire, on fait confiance. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup font confiance. Et le Conseil constitutionnel est présenté comme l'instance qui garantit le respect de la Constitution. Et là encore, on ne fait pas très attention à cette affirmation, puisqu'on se dit, si on le dit, il y a un petit côté comme ça, hein, si on le dit, c'est que c'est vrai. Parce qu'on a été un petit peu habitué à ça, en effet. La force du discours, c'est parfois de faire croire à sa performativité, c'est-à-dire au fait qu'il fait ce qu'il dit qu'il fait. Et parfois, ça peut être vrai, mais s'agissant de la Constitution et des organes qui sont en charge de l'application de la Constitution, eh bien, rien n'est moins vrai. En effet, dans le précédent livre, je montrais que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce sa mission, eh bien, ne lui permettent pas d'être réellement une garantie du respect du texte constitutionnel, parce que il exerce cette mission dans un état de dépendance vis-à-vis des pouvoirs qu'il est chargé de contrôler. Et donc, on est rarement indépendant de celui, justement, dont on est dépendant. Donc, naïveté, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être une insuffisance d'interrogation, parce qu'il y a tellement de choses aussi à vivre, que si en plus on doit douter systématiquement du discours institutionnel, eh bien, il y a peut-être un petit côté à la fois lassant, voire inacceptable, parce qu'on sait très bien qu'on fait confiance à nos institutions. Alors, c'est à la fois par obligation, mais en même temps par commodité. C'est les deux en même temps, en fait. Par commodité, parce que ça nous arrange bien que d'autres exercent le pouvoir à notre place. Par obligation, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais de fait, les discours se trouvent assez peu interrogés. Et c'est ce qui fait, pour le coup, je crois, toute la force de mon travail, c'est d'interroger ce qui, d'habitude, ne l'est pas. Et je crois que c'est pour ça que, globalement aussi, j'ai eu autant d'invitations sur le précédent et je commence à en avoir aussi pour celui-là. Alors d'ailleurs, on ne l'avait pas dit, mais j'en profite pour le dire maintenant. Pour nos auditeurs d'IWA, je serai le samedi 15 février à 18h à la librairie Mosaïque pour parler du livre et éventuellement faire une séance de dédicace. Donc, samedi 15 février à 18h à la librairie Mosaïque à 10 rue Camille Beffardel. Et je signale aussi à nos auditeurs, si jamais ils traînent du côté de Paris jeudi prochain, le jeudi 16 janvier, à 19h, que je serai pour la soirée de lancement de cet ouvrage à la librairie Compagnie 58 rue des Écoles, donc à 19h le jeudi 16 janvier. C'est le 5e arrondissement, c'est la librairie qui est en face du Collège de France.
J'ai eu cet ouvrage, hein, La Constitution au XXIe siècle, et j'ai tenté de lire, hein, parce que c'est quand même un texte dense qui amène beaucoup de réflexions. J'ai sauté directement sur l'épilogue intitulé « Être ou ne pas être constitutionnel » en point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qui peut émaner de cette notion, de ce questionnement? Je voudrais revenir quand même sur une ou deux choses aussi. C'est cette constitution par rapport à leur... création, hein, initiale, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre ou en France, est-ce que c'est aussi le préambule de ce qu'on allait appeler l'ère industrielle?
Oui, alors je vais commencer peut-être je vais donner un tout petit élément de réponse sur cette question de l'épilogue sur laquelle je reviendrai tout à l'heure commencer à donner des explications via ta deuxième question. Sur la coïncidence entre l'écriture des premières constitutions et l'ère industrielle. Être ou ne pas être constitutionnel, c'est une interrogation qui succède évidemment à tout ce que j'ai raconté avant et qui peut-être constitue ce qu'on pourrait appeler la face sombre du constitutionnalisme. Je précise ce que j'entends par constitutionnalisme, parce que ce n'est pas un mot qu'on entend souvent. Le constitutionnalisme, c'est précisément cette philosophie qui naît au XVIIIe siècle, alors qu'il y a évidemment des origines dans les siècles précédents, mais qui naît au XVIIIe siècle selon laquelle il faut écrire le pouvoir pour le limiter. Et donc naissent les premières constitutions écrites qui organisent l'exercice du pouvoir pratiquement de la même façon qu'on les connaît aujourd'hui. Les discours à propos du constitutionnalisme sont plutôt d'une positivité assez exceptionnelle. On aime les constitutions, on aime l'idée de constitution. Lorsque les Gilets jaunes entament un conflit social, rapidement, ils réfléchissent au texte constitutionnel et à comment proposer un autre texte constitutionnel. Il existe partout en France des ateliers constituants ou des réflexions autour de la question constitutionnelle ou des associations ou des simples citoyens qui entendent expliquer la chose constitutionnelle à leurs concitoyens. Donc on aime l'idée de constitution, on pense que c'est le moyen par lequel réaliser la lutte, parfois, le moyen par lequel réaliser le progrès social. Donc on aime l'idée de constitution et dans mon livre, je déroule en quelque sorte une sorte de mécanique qui est beaucoup moins réjouissante que les idées qu'on s'en fait à première vue. Beaucoup moins réjouissante puisque, alors je vais aller très très loin, c'est un processus, j'attire l'attention sur la difficulté, peut-être une difficulté de lecture du livre, parce que c'est, je pense, un livre assez simple à lire sur le plan du type d'écriture que j'ai. Mais c'est un raisonnement, en fait, qui est en plusieurs temps. C'est-à-dire que je réponds à des questions que j'ai posées plus tôt dans le livre et j'y réponds au fur et à mesure. Je reprends des éléments anciens dans le livre pour étoffer la réflexion future à chaque fois. Et donc, voilà, c'est pas un livre à tiroir, mais c'est un livre qui se déroule petit à petit et qui se prête mal, je pense, aux extraits. C'est-à-dire qu'un extrait en lui-même peut ne pas être compris si on n'a pas lu ce qui précède avant. Pour autant, la lecture, je rassure, hein, est assez simple. Pas de difficulté là-dessus. Bon. Mais donc, si je passe directement, par exemple, au chapitre 4, eh bien, j'expose la thèse très claire, et donc très provocatrice, mais très claire, qui n'a jamais été exposée ailleurs, sauf par certains auteurs, souvent issus de pays qui ont vécu la tragédie coloniale, que le constitutionnalisme a fait son lit dans le génocide, dans l'esclavagisme, dans le colonialisme. parce que le constitutionnalisme, c'est une philosophie, je le disais tout à l'heure, de l'écriture du pouvoir en vue de le limiter. Mais cette philosophie-là, elle ne n'est pas n'importe où et elle ne n'est pas diffusée par n'importe qui. Autrement dit, cette philosophie, elle naît essentiellement en Angleterre, se diffuse très vite aux États-Unis, puisque ce sont eux officiellement dans le monde occidental qui écrivent en premier une constitution en 1786. Puis viennent les Français via la Déclaration des droits de l'homme et surtout via leur constitution au mois de septembre 1791, juste après d'ailleurs la Pologne. Mais les trois pays, Angleterre, États-Unis, France, sont des pays qui, à ce moment-là, sont des grandes puissances qui ont surpassé l'Espagne, le Portugal, par exemple, et qui ont effectivement, elles aussi, pratiqué, comme l'Espagne et le Portugal, hein, de toute façon, exactement de la même façon, le génocide des Indiens, par exemple, et sont adeptes de la pratique de l'esclavage, et sont des colonisateurs, et pas des colonisateurs pacifiques. Et ce sont eux qui font naître le constitutionnalisme. Et lorsque la Constitution américaine dit que la Constitution vise le bonheur de tous et garantit la liberté de l'homme, comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase-là sans l'associer à ce qui se passe par ailleurs ? C'est-à-dire que parfois on dit que la Constitution des États-Unis, c'est un acte d'émancipation populaire. Parce qu'en effet, la Constitution des États-Unis, elle fait suite à la Déclaration d'indépendance qui rompt avec la domination britannique. Donc, le peuple américain s'est libéré de la domination britannique. Oui, mais pas n'importe quel peuple américain, c'est-à-dire un peuple européen venu coloniser les terres et, pour cela, ayant génocidé les Indiens. Donc, cet acte d'émancipation, elle s'est fait sur le dos d'une tragédie, sur le dos du génocide, du colonialisme et de l'esclavagisme. Et contrairement à ce qu'on dit, l'esclavagisme au moment de la Constitution américaine, où elle est rédigée, c'est une sorte de concession qui est faite. Il y a des anti-esclavagistes dans ceux qui rédigent la Constitution, mais la Constitution n'abolit pas l'esclavage. Pourquoi ? Parce que, et peut-être là, il faudra faire un lien avec cette deuxième question de la coïncidence avec l'ère industrielle, c'est que cette variable, ce que j'appelle une variable pour les constituants de l'esclavage, eh bien, c'est moins important que la question économique. Moins important. Donc, c'est ça, le constitutionnalisme. C'est que l'homme, si on peut dire le respect de l'humanité, est en quelque sorte secondaire par rapport à la question économique. Alors j'y reviens sur cette question économique. C'est que limiter le pouvoir, écrire le pouvoir pour le limiter, mais dans quel but ? Eh bien justement, le but, il est très clair et il est là. Le but, c'est de mettre les rapports économiques à l'abri de la décision politique. Et pour que ces rapports économiques soient à l'abri de la décision politique, il est nécessaire de limiter le pouvoir de l'État. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'ennemi en Europe, c'est l'État. Pourquoi ? Parce que l'État se débrouille mal. L'État, parfois, a des échecs militaires qui sont aussi des échecs financiers, c'est-à-dire que les caisses se vident. L'État, c'est des modes d'intervention dans l'économie qui sont considérés comme néfastes. Et puis l'État, c'est une grande puissance qui, précisément, peut vous mettre en prison à n'importe quel moment et vous faire faillite, par exemple. Donc, tous ces éléments poussent des élites, parce que ce sont les élites qui pensent le pouvoir et qui l'écrivent. Tous ces éléments poussent des élites à dire il faut, alors, pas n'importe lesquelles, hein, d'ailleurs, essentiellement, cette nouvelle élite bourgeoise, issue donc des fameux bourgs, qui ont réussi économiquement, qui ont fait des affaires, qui ne sont pas dans un lien affectif particulier avec
la monarchie, comme le sont les nobles, et qui donc entendent bien conserver leur liberté et leur indépendance vis-à-vis de l'État. Donc l'État, c'est l'ennemi. Et c'est l'ennemi en ce sens qu'il peut nous empêcher de faire nos affaires et nous faire perdre de l'argent. Donc, on écrit pour limiter le pouvoir. Et d'ailleurs, je fais un dernier lien pour répondre aussi donc à cette question. Pourquoi je pose la question être ou ne pas être ? Parce qu'une fois qu'on a fait tous ces constats, on doit se poser la question de savoir si finalement, est-ce qu'on doit continuer à être constitutionnel ? Ce dernier lien, c'est avec la question de la démocratie. Si je prends les deux exemples constituants en américain et français, le rejet de la démocratie est extrêmement clair. Alors, bien sûr, à l'époque, la démocratie, elle n'est pas envisagée comme aujourd'hui. Elle est envisagée comme une démocratie populaire essentiellement directe, un peu à la grecque. On n'a que ce modèle-là, à ce moment-là, en tête. Donc, on ne l'envisage pas autrement. Et donc, on rejette la démocratie. Pourquoi ? C'est très clair chez l'un des rédacteurs importants de la Constitution américaine, qui est James Madison. Et c'est très clair chez l'un des révolutionnaires les plus importants intellectuellement français, qui est l'abbé Sieyès. Tous les deux le disent, la démocratie est un mauvais régime, notamment pourquoi ? Parce qu'il peut mettre en danger la propriété. Pourquoi ? Parce que la propriété, c'est le privilège d'un nombre réduit d'individus, alors, dans la population. Et si on donne le pouvoir à tout le monde, on donne le pouvoir à des gens qui ne sont pas propriétaires et qui donc peuvent facilement prendre des décisions qui vont aller contre la propriété de quelques-uns. Donc la propriété, c'est ce qui doit être préservé, et la démocratie, c'est ce qui est susceptible de lui porter atteinte. Donc, certainement pas la démocratie. Un État limité, un État libéral, en ce sens qu'il va laisser suffisamment de liberté à ceux qui ont des intérêts à protéger pour, effectivement, les protéger.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7 FM.
Je revenais aussi sur cette notion de être ou ne pas être constitutionnel. Il y a cette notion, vous le rappeliez tout à l'heure, au lendemain, par exemple, de conflits ou d'instabilité internationale, il y a eu ce recours à de nouvelles constitutions, donc pour préserver, semble-t-il, une certaine propriété, une notion de propriété. Est-ce que nous allons, au vu de l'actualité d'aujourd'hui et internationale, sur une nouvelle constitution également ? L'histoire pourra nous le dire, ou l'avenir ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je viens de souligner sur l'origine économique des constitutions, n'est pas conscientisé aujourd'hui par la plupart des acteurs, et même des acteurs politiques. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui pensent avec beaucoup de sincérité que une constitution organise le pouvoir de manière à faire respecter les droits et les libertés de tous, indépendamment de la question de la propriété. Mais je vais dire deux choses à ce sujet. Et c'est là où c'est peut-être pas toujours évident de saisir exactement ce que je raconte et où on peut me prêter des intentions un peu caricaturales. La Constitution, aujourd'hui, pour beaucoup d'acteurs et dans le discours de beaucoup d'experts, qu'est-ce que c'est ? C'est donc cette norme suprême qu'il faut respecter. Et d'ailleurs, on institue de la justice constitutionnelle pour faire respecter la Constitution. La première remarque que je ferais, c'est que quand on fait le bilan, et ça, c'est ce que je dis dans le livre précédent, quand on fait le bilan de la justice constitutionnelle dans le monde, et aujourd'hui, en 2025, on s'aperçoit que parmi les libertés les plus protégés par les cours constitutionnelles, on trouve la propriété sans surprise, la liberté d'entreprendre, et la liberté contractuelle. Ce sont les libertés et les droits les plus protégés par les cours constitutionnelles. Viennent après la liberté d'aller et venir des individus, le droit à la vie privée, la liberté d'expression, bien sûr, qui est un droit qui est soumis à pas mal de restrictions, mine de rien, etc. etc.
Et le droit au bonheur en dernier ?
Le droit au bonheur fait partie de ces dispositions constitutionnelles dont on estime, dont les juges ont toujours estimé qu'elles n'avaient aucune portée normative. Donc, elles ne sont jamais, entre guillemets, appliquées par les juges. C'est une variable cosmétique, on va dire, du récit constitutionnel. Donc, en tout cas, premier point. Deuxième point, le respect de la Constitution, s'il est assuré, donc, c'est un deuxième point qui démarre par le premier, le respect de la Constitution, s'il permet de garantir la propriété, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, apparaît comme une nécessité pour les opérateurs économiques, évidemment. Et qu'a-t-on constaté, par exemple, sur toute la fin du XXe siècle et le début du XXIe ? Eh bien, c'est que les institutions, les grandes institutions financières internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, par exemple, eh bien, ont demandé spécifiquement à tous les acteurs dans le monde, et notamment les acteurs demandeurs de financement. Quand je dis les acteurs, ce sont les États, qui n'avaient pas encore de justice constitutionnelle ou qui ne faisaient pas encore suffisamment bien respecter leur constitution, eh bien de le faire, de mettre en œuvre des mécanismes pour assurer ce que toutes ces institutions appellent la suprématie du droit. Et donc la stabilité du droit. Parce que ce qui compte pour qu'un territoire soit un bon marché, c'est que l'État ne soit pas capricieux, que l'État se conforme au droit constitutionnel, c'est-à-dire au droit qui consacre la propriété, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle. Donc la nécessité d'avoir une constitution, aujourd'hui, elle est posée par tous les acteurs, toutes les organisations internationales et les grands acteurs économiques. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permet d'assurer la sécurité suffisante, la stabilité juridique suffisante pour que le marché soit, pour que le territoire soit un territoire d'accueil des investissements. De cela, les acteurs politiques peuvent avoir conscience ou pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que ça se passe comme ça. Et peut-être, j'avais dit deux points, mais un troisième point peut-être important pour finaliser ce tableau-là. Disons que si on veut changer de constitution, on ne veut pas spécifiquement pour préserver personne ici. Si j'interroge tous nos amis d'Iwa, personne ne va me dire qu'il faut changer de constitution pour faire mieux respecter le droit de propriété. Personne n'a évidemment cette idée. Mais nous sommes sous surveillance. C'est-à-dire que, entre guillemets, on ne nous laissera pas faire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle il y a des concessions qui sont faites. Pourquoi ? Il faut que nous aimions notre constitution pour que nous laissions faire ce qui se passe. Pour que nous disions les pouvoirs sont légitimes parce qu'ils ont été institués par la constitution. Et cette constitution, elle est aimable parce qu'elle pose le principe de la liberté, parce qu'elle pose le principe du respect de l'environnement, parce qu'elle pose le principe de la liberté d'avorter. Mais comme je le disais par provocation, lorsque j'étais en Pologne il y a quelques semaines, à un journaliste qui m'interviewait, je lui disais, mais comprenez bien que s'il faut accepter que vous vous mariez avec un chien pour que vous validiez la Constitution qui organise des mécanismes qui permettent d'exercer le pouvoir de telle sorte que, pour l'essentiel, les rapports économiques seront à l'abri de la décision politique, eh bien, on le fera. Dans ce sens, je dis que le constitutionnalisme n'a aucune patrie morale ou aucune valeur morale spécifique, si ce n'est celle d'organiser les pouvoirs de telle sorte que l'espace politique restera toujours distinct de l'espace économique. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne peux pas dire que ça n'est pas bien de mettre la liberté d'avorter dans la Constitution, je ne peux pas dire que ça n'est pas bien que l'on respecte l'environnement. Bien sûr que je ne peux pas le dire. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça masque ? Qu'est-ce que le fait de tout miser là-dessus masque par ailleurs ? Eh bien, ça masque, et on va peut-être en venir là, ça masque le fait que on ne puisse pas sérieusement discuter ou contester la manière dont s'organise l'exercice du pouvoir.
Alors, dans cet épilogue, être ou ne pas être constitutionnel, qu'est-ce que serait ne pas être constitutionnel aujourd'hui ?
Je m'étais presque dit, en écrivant tout cela et à la fin, que quand on m'interrogerait là-dessus, je dirais que ça n'est pas à moi de répondre à cette question. Je m'entends. Parce que la question classique, c'est mais finalement, qu'est-ce que vous proposez ? Bon. Alors, peut-être vais-je commencer par préciser que, même si je suis assez claire, il n'empêche que je laisse le point d'interrogation. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que ça n'est pas à moi de décider. Ça n'est pas à moi. Ce que j'ai fait avec ce livre, et c'est déjà énorme, c'est de poser un constat et de faire des liens que pratiquement personne ne fait jamais sur ces questions-là. Le discours à propos des constitutions est un discours qui est très éprouvé et que je démonte. Je le démonte complètement dans ce livre. Et c'est déjà un gros, gros travail que d'avoir fait ça. De là, quelles conséquences en tirer ? Eh bien, justement, exactement comme pour le précédent où j'ai démonté tout le système de la justice constitutionnelle en France pour montrer à quel point il ne correspondait pas à l'idée qu'on pouvait s'en faire. C'est-à-dire qu'en rien, il ne garantit le respect de la Constitution autrement que en assurant la pérennité de sa philosophie économique. Mais une fois que j'ai fait ce constat, est-ce que je dis c'est bien, c'est pas bien ? Ben en fait, mon rôle n'est pas là. Mon rôle n'est pas de dire « ça n'est pas bien de faire ça ». Mon rôle est de dire « maintenant que qu'on le sait, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se dit après tout « c'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir ?» Ou est-ce qu'on se dit « non, peut-être qu'on pourrait avoir autre chose ?» Bon, eh bien, c'est exactement le même questionnement que j'ai à propos de la Constitution. Est-ce que si la Constitution n'apporte absolument pas les bienfaits qu'elle est dite apporter dans nos représentations communes, est-ce qu'on doit se passer ou non de constitution ? Parce que j'exprime aussi des doutes très sérieux sur le fait que les choses pourraient se passer autrement en écrivant une nouvelle constitution. Si on l'écrit avec les mêmes considérations, les mêmes représentations, j'allais dire que c'est voué à l'échec, c'est un éternel recommencement qui sera en même temps très... ce sera une grande continuité, c'est-à-dire qu'on continuera toujours à s'en plaindre et on en discutera et on s'en plaindra et on recommencera et on recommencera. Bon. C'est un choix que l'on peut faire, mais ce choix-là ne m'appartient pas, en fait. Moi, ce n'est pas mon travail, ça.
Pour intervenir, oui. C'est le travail de qui ?
Eh bien, je crois que c'est le travail de l'ensemble du corps politique et social. Je crois que c'est un travail collectif à faire. Il me semble que il n'y a pas suffisamment aujourd'hui. Alors je dis « il me semble », c'est une affirmation peut-être très péremptoire par rapport à ce que j'en sais réellement. Mais je continue quand même pour faire comprendre. Il me semble qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt aujourd'hui au sein de la population pour prendre à bras-le-corps cette question constitutionnelle. Il y a beaucoup d'initiatives, des choses très intéressantes, je le disais au début de cette interview, parce que j'en ai rencontré beaucoup. mais rapporté à l'ensemble de la population, je ne crois pas qu'il l'intérêt soit suffisant. Et la petite quantité de personnes qui ont cet intérêt-là peuvent essayer petit à petit de susciter l'intérêt des autres. Et sans doute, j'en fais partie. Mais à moi toute seule, je ne peux décider de rien. Je peux me dire, tiens, ça serait intéressant qu'on se réapproprie cette question au niveau le plus élémentaire, c'est-à-dire que chacun puisse se le réapproprier. Et alors, j'ai introduit une nuance, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans ma précédente interview, il ne s'agit pas d'aller raconter ce que raconte la Constitution à tous les élèves de primaire, hein, comme on le fait. C'est un programme lancé par l'actuel encore président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Il est président jusqu'à la fin du mois de février. Donc, la Constitution dans nos écoles, c'est de la propagande. Parce que, évidemment, tout ce que je raconte ne sera jamais raconté aux enfants. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait une réappropriation véritable de cette question constitutionnelle à partir de l'idée qu'est-ce que la Constitution fait ou ne fait pas ? Et comment est-ce qu'on pourrait envisager qu'elle fasse ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent ? Voilà, là, ça serait intéressant. Je peux participer à cette entreprise intellectuelle, en quelque sorte. Mais à la fin, si on est 10, si on est 20, même si on est 1 million, ça ne suffira pas. Parfois, un élan se provoque, bien sûr. Moi, je suis tout à fait dans cet état d'esprit-là. Mais je ne suis que dans cet état d'esprit de participer à la provocation éventuelle d'un élan. Mais évidemment, si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et je n'en suis pas responsable.
Je reviens lors de ce que j'ai écouté, la notion de cette constitution donc, qui sert l'intérêt économique, d'entreprendre, et la liberté contractuelle. Et le titre du précédent ouvrage, La constitution maltraitée, est-ce que quelque part, ça dépend des points de vue, mais c'est pas une contradiction ?
C'est une absolue contradiction. Pour le coup, ce titre a eu un grand avantage. C'est que il a vraiment permis d'attirer l'attention sur cette question-là. Et je le revendique en ce sens, puisque j'en suis à l'origine. Et pour autant, en effet, il induit dans le propos général, puisque je dis que la justice constitutionnelle maltraite la Constitution. Il peut induire que je considère la Constitution bonne en soi. Et ça n'est pas le cas. Mais ce que je raconte, c'est que, en fait, je fais comme si, dans l'ouvrage précédent, je fais comme si je croyais à ce que dit la Constitution. Et c'est en cela que, par rapport à tout ce qu'on vient de raconter, oui, il y a une contradiction. Et en même temps, il n'y en a pas parce que, dans le livre précédent, je suis partie d'une forme de naïveté. Vous employiez le mot tout à l'heure. Une forme de naïveté vis-à-vis du texte, vis-à-vis de ce que me raconte le texte. Le texte français nous dit que la France est une république laïque, démocratique, sociale. Alors moi, je me dis, est-ce que le Conseil constitutionnel donne sa valeur à cette idée, par exemple, de république sociale ? Est-ce qu'il donne sa valeur au principe d'égalité entre les individus, etc., etc. Et le fait est que non. Le fait est que non, et qu'il va donner de la valeur à d'autres principes qui ne figurent même pas, d'ailleurs, dans le texte constitutionnel, sauf, évidemment, le droit de propriété. Donc, la Constitution est maltraitée si j'y crois. Donc, en ce sens, le titre a du sens. Mais, évidemment, je n'y crois pas, par ailleurs. Et c'est comment dire, j'avais laissé cette porte ouverte dans le dernier chapitre du livre précédent, le chapitre 7, que certains avaient vu. Certains avaient vu cette porte ouverte en disant, mais finalement, parce que je l'avais dit, mais finalement, si nous avions une justice constitutionnelle beaucoup mieux organisée, où les juges seraient indépendants, où les juges respecteraient les règles élémentaires de la déontologie, où les règles du procès équitable seraient suivies, où les juges se comporteraient de manière impartiale, où les juges n'accepteraient pas de recevoir des rémunérations en tout type d'égalité, etc., etc. Est-ce que, si c'était le cas, la justice constitutionnelle serait meilleure? Et je dis que peut-être pas. Peut-être pas, pourquoi? Parce que je constate que partout ailleurs dans le monde, quand elle est mieux organisée, eh bien, la justice constitutionnelle est à peu près la même que celle qui est rendue en France. Et c'était cette porte que j'ouvrais vers le livre actuel, que je ne savais pas alors que je rédigerais si rapidement.
L'heure arrivant à la fin, je rappelle aux auditeurs donc cette présentation et signature possible à la librairie Mosaïque le 15 février.
Oui, le samedi 15 février à 18h. Donc je rappelle encore aussi la soirée de lancement à la librairie Compagnie le 16 janvier à 19h. Et puis je signale quand même que vous pourrez... me retrouver, alors sauf changement de programmation au dernier moment, mais vous pourrez retrouver un entretien dans le journal L'Humanité mercredi prochain, 15 janvier, bientôt aussi un entretien dans le journal Libération, et vous pourrez aussi m'entendre chez un de vos confrères le jeudi 23 janvier à 20h sur France Culture dans l'émission La Suite dans les idées chez Sylvain Bourmeau, si vous voulez encore discuter de la Constitution.
Et n'oublions pas le site internet.
Bien sûr, mon site internet sur lequel je mets beaucoup de réflexions. Il y a aussi des liens vers des vidéos. En général, je mets aussi les liens justement vers des entretiens. Donc c'est www.ledroitdelafontaine.fr, le droit de la fontaine exactement comme ça s'écrit. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Laureline Fontaine, d'être venue sur Air du Bois pour nous présenter donc la Constitution au XXIe siècle. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée, merci Yves.
Au revoir.
Au revoir. Qu'est-ce que tu as? Kein Grund, dann neu stunden mir Thank you.